Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invitée de cet après-midi s'appelle
Anna Oller.
Elle est critique de danse et d'architecture. Avec Hélène Catin, elle adapte et met en scène des écrits de l'architecte Peter Zumthor dans le spectacle Ein Gebäude sein, être un bâtiment. Et c'est la deuxième étape de cette semaine en forme de maison.
L'architecture entretient avec la vie un rapport particulièrement physique. Selon l'idée que je m'en fais, elle n'est en premier lieu ni un message, ni un signe, mais une enveloppe, un arrière-plan pour la vie qui passe.
Je déballe ma bibliothèque, voilà. Elle n'est donc pas encore dressée sur les étagères. Le léger ennui du classement ne l'a pas encore enveloppée. Je ne peux non plus marcher le long de ces rangées pour les passer en revue accompagnée d'auditeurs amis. Tout cela donc, vous n'avez pas à le redouter. Me voici réduit à vous prier de vous transporter avec moi dans le désordre de caisses éventrées, dans une atmosphère saturée de poudre de bois, sur un sol jonché de papier déchiré, au milieu de piles de volumes exhumés depuis peu à la lumière du jour, pour que d'entrée de jeu, vous partagiez un peu l'humeur qu'ils éveillent chez l'authentique collectionneur, car c'en est un qui vous parle, et tout compte fait, uniquement de lui. Walter Benjamin, vous écoutez France Culture, on continue. C'est pas la peine de crier. Le Polaroid du jour est un tas de photos souvenirs comme il s'en faisait. Sur le plateau du milieu, vers 16h20, il n'est pas impossible d'y croiser des souvenirs tant l'architecte dont il sera question mêle le vu et le vécu et défend le bien conçu autant que le sensoriel. Anna Oller porte en scène avec Hélène Catin les mots de Peter Zumthor et c'est la deuxième étape de cette semaine thématique maison. Vers 16h50, nous écoutons les mots de Samuel Beckett parce que ça fait plaisir et ensuite il sera 17h, vous aurez le plaisir de retrouver Hervé Gardette. Cette semaine, c'est Carole Franck qui déballe sa bibliothèque. Il faut fermer les yeux et imaginer ses grands yeux bleus à elle qui courent sur la page et la précision de ce regard retransmis en direct dans la voix. Elle lit aujourd'hui un extrait de Sur la lecture de Marcel Proust. On l'écoute.
Je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût et la remplir seulement de choses qu'ils puissent approuver. Pour moi, je ne me sens vivre et penser que dans une chambre où tout est la création et le langage de vie profondément différente de la mienne, d'un goût opposé au mien, où je ne retrouve rien de ma pensée consciente, où mon imagination s'exalte en se sentant plongée au sein du non-moi. Je ne me sens heureux qu'en mettant le pied, avenue de la gare, sur le port ou place de l'église, dans un de ces hôtels de province aux longs corridors froids, où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement des murs, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver mais n'efface pas, et que les narines aspirent 100 fois pour l'apporter à l'imagination qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle, avec tout ce qu'il contient de pensées et de souvenirs. Ou le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui y est restée éparse, de la prendre hardiment par la main quand, la porte refermée, on entre plus avant jusqu'à la table ou jusqu'à la fenêtre, de s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle sur le canapé exécuté par le tapissier du chef-lieu dans ce qu'il croyait le goût de Paris, de toucher partout la nudité de cette vie, dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité, en posant ici et là ses affaires, en jouant le maître dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres, et qui garde jusque dans la forme des chenets et le dessin des rideaux l'empreinte de leurs rêves, en marchant pieds nus sur son tapis inconnu. Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi, quand on va tout tremblant tirer le verrou, de la pousser devant soi dans le lit, et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure, tandis que tout près, l'église sonne pour toute la ville, les heures d'insomnie, des mourants et des amoureux.
Carole Franck, vous lisez un extrait de Sur la lecture de Marcel Proust, qui est un extrait qui introduit un autre texte, une traduction, une sorte de préface en réalité. On entend beaucoup de choses dans ce texte, mais principalement la description d'un bien-être à être dans un endroit qui n'est pas à soi et à côtoyer d'anciennes villes et c'est là, et d'y trouver une place. C'est quelque chose que vous comprenez ?
Très bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est l'idée d'une solitude heureuse. C'est très rare qu'on présente la solitude comme pouvant être heureuse. Et elle ne l'est pas forcément d'ailleurs. Mais il y a des moments de solitude qui apportent un très grand bien-être et qui permettent même dans ces moments-là de se sentir très connecté à tous les autres, ce qu'il explique avec les amoureux, les mourants, toute la ville. Donc ce que j'aime dans ce texte, c'est cette idée-là, cette idée de ces moments de sérénité. On a l'impression d'être connecté à toute l'humanité et c'est très serein, c'est très calme, c'est très agréable. Après, évidemment, ça m'évoque aussi le travail de l'acteur, le fait que l'imagination s'exalte au sein du non-moi, ce qu'il dit, hein, en se sentant plongé au sein du non-moi, le fait, comme il dit deux fois le mot « imagination », donc l'imagination, et que l'imagination soit favorisée par une chambre étrangère, des vies étrangères, et qu'on confronte sa familiarité. Quand il dit de toucher partout la nudité de cette vie dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité, ce mélange de confrontation de sa familiarité à l'étrangeté des autres, aux autres, à l'altérité, oui, ça m'évoque une partie du travail de l'acteur, en tout cas, ça me l'évoque. Bon, mais c'est plus large que ça, ce texte va bien au-delà de ça. Oui, c'est vraiment ces moments de sérénité dans la solitude que je crois que tout le monde connaît à un moment ou à un autre. Et c'est très solaire, ce texte, je trouve. Et c'est, alors, en plus, un texte incroyable, parce que, en fait, quand on le regarde, il y a deux phrases. La première phrase, c'est « Je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût et la remplir seulement de choses qu'ils puissent approuver. » Une phrase. Et tout le reste du texte, qui fait quand même une page et demie, c'est une seule phrase. Il y a un point final après, « amoureux », mais jusque-là, il n'y a pas de point final. Et donc, du coup, quand on le lit dans sa tête, seul chez soi ou à haute voix, la pensée n'est pas arrêtée. Et ça donne la sensation de cette sérénité, de ce calme, de l'imagination qui flotte. En suivant son rythme, le rythme qu'il nous donne, il nous crée la sensation du sujet du texte, qui est un flottement, un bien-être. C'est quand même extraordinaire.
Ça fait une lecture opérante, qui opère sur soi.
Oui, oui. C'est-à-dire, on n'est pas bien, on lit ça, on est calmé. Sortez du métro, quelqu'un vous a emmerdé, vous lisez ce texte dans votre tête ou à haute voix sur votre lit, ça calme.
C'est aussi un texte qui, au tout début de Sur la lecture, parle de son rapport enfant, lui, avec la lecture, et qu'il n'y avait rien de si bon que d'être en haut dans la maison et d'être plongé dans la lecture et de prier pour que personne ne vienne le déranger. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être similaire dans votre propre enfance ou adolescence, ce rapport au livre et à la littérature ?
Alors, non, j'ai jamais été solitaire comme il le décrit. J'aimais les autres et j'aimais être avec les autres. Par contre, c'est vrai que j'aimais passionnément la poésie et la littérature d'une manière générale. Et pas du tout pour aller le réciter à la fin d'un repas devant tout le monde. C'était seul dans ma chambre, effectivement. J'apprenais du Verlaine, du Rimbaud, du Hugo. J'avais appris à 9 ans tout le rôle de Cyrano de Bergerac. Donc je pense qu'il y avait une petite vocation quand même dont je n'étais pas consciente, je n'avais pas compris que c'est ça que ça voulait dire. Qu'il fallait. Mais c'est vrai que la beauté des textes, c'est quelque chose auquel j'étais sensible, je pense, dès l'âge de, je sais pas, 9 ans, et notamment de la poésie. Et le plaisir d'apprendre des textes ou de les lire à haute voix, mais par contre ça ne m'isolait pas du tout. C'est-à-dire que ça ne m'empêchait pas d'adorer aller à l'école et d'adorer les copains et les bandes et les groupes. C'était à côté, en plus. Et parfois, c'était mélangé parce que j'ai des copains qui me demandaient de leur faire la lecture, des fois, quand j'étais adolescente. J'avais toute une bande de copains et on dormait souvent tous ensemble. Et des fois, pour les endormir, ils me disaient « Tu nous fais la lecture ?» Et je prenais un bouquin et je leur faisais la lecture pour qu'ils s'endorment.
La classe. Qu'est-ce qu'on met comme musique ?
Alors, j'avais envie de mettre « Pas de parole » après Proust. Donc, j'ai choisi « Vertigo » de Bernard Herrmann. Thank you.
En attendant demain de retrouver Carole Franck pour la poursuite de son déballage de bibliothèque, on peut acheter le DVD de l'esquive d'Abdelatif Kechiche où elle campait la professeure de français, juste pour se rafraîchir l'intelligence. Et on peut aussi se concentrer doucement pour le Polaroid qui vient. Les albums sont de forme carrée et recouverts d'une matière mi-moquette, mi-papier peint. Les photos sont collées dedans et recouvertes, elles, d'un film, comme de la nourriture sous cellophane. Si tu soulèves, tout bouge. La vie bien organisée dans l'ordre se mélange sous tes yeux et c'est ce que je fais, je soulève tous les films et sous le plastique, tout fond. Je retrouve le sourire de cette fille à Paris, à Deauville, Trouville, Oslo, Bangkok, New York, Dinan, Delhi. Je le connais bien, le sourire de cette fille, mais je ne me souvenais plus qu'il s'était promené autant. Je connais plus le sourire que la fille, et tout fond sous le plastique. Je tourne les pages, je sors les albums de la bibliothèque, que le chien a mâché sur les bords lorsqu'il était trop seul. Je suis un chien, j'ai tout mâché moi aussi lorsque j'étais trop seul. Et sur tous les albums, les sourires de la fille planent sous le cellophane, même sur les photos où la fille n'est pas. Paris, Deauville, Trouville, Oslo, Bangkok, New York, Dinan, Delhi, dans les bâtiments, sous la peau, dans les paysages, sous la peau, dans la page, sous l'eau, sous l'album, sous la peau, sans légende. Au bout de plusieurs heures, gisent à terre 1000 photos souvenirs qui ne sont pas de moi. J'ai mis un bazar dans une vie que je ne suis même plus à même de reconnaître. Je vais aller la chercher. La ville, la vie et la fille qui allait avec.
Nancy, Trouville,
Pour ce Polaroid, Miss Chanel proposait une reprise de la chanson de William Scheller, Photo Souvenir, par le groupe Christine and the Queen. Et quand Miss Chanel décide de poster ses coups de cœur musicaux, cela donne déjà beaucoup, beaucoup de musique dans la playlist d'un certain réseau social. Pas la peine de crier par numéro 5 que cela ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le deuxième moment de cette semaine entièrement construite autour du mot « maison ». Parmi les maisons possibles, un soir, nous choisissions celle de la Suisse, dans le parc de la Cité internationale à Paris, et nous l'avons tous ensemble habité un temps. Dehors, le soir était tombé, dedans, le couloir qui distribue les chambres était le décor non pas d'un théâtre, mais d'une parole. Ce sont les notes de l'architecte Peter Zumthor, lauréat du Pritzker en 2009, qui résonnent. Ensuite, nous, spectateurs, nous nous déplaçons, comme guidés par les mots à l'intérieur de la maison, qui dévoile en même temps que la pensée de l'homme des atmosphères, des températures, des sensations, des transparences, des corps. C'est en ces termes que l'architecte dont il est question peut parler de construction, des espaces où se confondent ce qui est vu et ce qui est vécu, ce qui rend la question « quelle maison voulons-nous habiter ?» d'autant plus sensible. Être un bâtiment, ein Gebäude sein, c'est le titre du spectacle joué la semaine dernière à Paris et qui est en tournée en Europe. C'est une adaptation que vous signez avec Hélène Catin. Anna Euler, vous êtes critique d'architecture et de danse, mais dans ce cas, metteur en scène et comédienne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Puisqu'il est question de Peter Zumthor et de ses notes théoriques, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter son travail, ou plutôt la manière dont vous l'avez découvert ? Est-ce que c'était d'abord par la théorie ou d'abord par les constructions ?
C'était vraiment essentiellement à travers le texte dont il est question ici. Donc c'est un petit livre qui s'appelle « Penser l'architecture ». Qui se trouvait dans ma bibliothèque depuis longtemps. Et il se trouve qu'après, le projet est né vraiment des circonstances un peu de la vie, parce qu'on cherchait un projet avec Hélène Catin. Donc, ce n'est pas du tout. On cherchait ni forcément à travailler sur un texte d'architecture ou sur Peter Zumthor en particulier, que moi, je connaissais pas. Pas particulièrement bien. J'ai visité avant tout le Kunsthaus de Bregenz, où d'ailleurs on a joué l'année dernière. C'était une magnifique expérience de jouer dans l'architecture même de Peter Zumthor. Je ne l'ai jamais rencontré non plus, Hélène Catin non plus. Nous, on l'a contacté pour lui parler du travail qu'on avait envie de faire. Et il nous a dit qu'il était d'accord, nous céder les droits pour faire l'adaptation de son livre. Et on l'a invité au spectacle. Jusqu'à maintenant, il est encore jamais venu, mais il nous a écrit un très très gentil mot où il disait qu'il était ravi d'après ce qu'il voyait, ce qu'on avait envie de faire de ce projet, en même temps un peu effrayé peut-être de venir voir de lui-même et d'être confronté à ses propres mots devant lui, mis en scène. Et donc en fait, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un architecte souvent traité d'ermite reclus dans les grisons, dans son studio à Lundstein. On dit de lui qu'il serait difficile d'accès, que c'est une star. Mais en fait, notre expérience, comme nous, on a eu contact avec lui, c'est tout à fait le contraire. J'ai l'impression que c'est un homme très simple. Et quand on, en tout cas, dans la manière dans laquelle il nous a répondu, c'est...
Et aussi dans les mots ? Et aussi dans la façon dont il exprime sa pensée.
Alors ça surtout, je pense que c'était vraiment la raison pour laquelle on a choisi ce texte, parce que c'est un texte d'architecte qui n'a rien de conceptuel, qui est très simple, et extrêmement poétique, et qui parle des choses de la vie, de l'habité, et qui est vraiment accessible à tout le monde. Il ne faut pas du tout être architecte pour comprendre de quoi il parle, parce que chacun de nous, on habite, on vit dans des lieux, des espaces, on sent les ambiances, les matériaux, la lumière, et puis Zumthor, il parle de ça.
Quel souvenir vous gardez d'une visite d'un bâtiment qu'il a dessiné et construit, fait construire ?
Bah là, je vais aussi parler de Kunsthaus de Bregenz. C'est depuis l'extérieur, on voit une boîte un peu austère, on se dit, oulala, c'est peut-être... froid, minimaliste, et puis on rentre et on se trouve dans des espaces très grands, vides, où il n'y a presque rien, mais là, par exemple là, ce qui nous a frappé, Hélène Catin et moi, c'est les murs en béton. Quand on touche le béton, c'est extrêmement doux, et en fait, quand on, ou la cage d'escalier, quand on monte, il y a des immenses perspectives, il y a une très très belle lumière, donc c'est vraiment tout sauf austère, ce qu'on pourrait voir à première vue, en fait, comme ça à l'extérieur, juste visuellement. Je crois ce qui est le plus important, c'est que c'est une architecture qui implique tous les sens.
Donc en ça, vous avez retrouvé une résonance particulière entre ses écrits, sa pensée, ce qu'on peut comprendre de sa pensée dans ce petit livre « Penser l'architecture » et ce qui est bâti. Il y a vraiment une cohérence entre les deux ?
Pour moi, il y a une très, très forte cohérence. Ouais. Il y a une correspondance même entre ce qu'on peut ressentir dans ces bâtiments et puis ce qu'on lit dans les textes.
Ouais. Je n'ai jamais été un bon observateur, ni même vous l'être. Et donc ces différences entre la réalité et mon souvenir ne m'ont pas surpris. J'aime à m'imprégner d'une atmosphère, à me déplacer dans des configurations spatiales, et je suis contente s'il m'en reste un sentiment agréable, une sensation, une impression, d'où plus tard, comme à la contemplation intense d'un tableau, je peux déceler les détails et me demander ce qui a provoqué le sentiment de légèreté, de sécurité, de chaleur ou de grandeur que je garde en mon souvenir. Dans ce regard rétrospectif, il n'y a plus de différence ni de limite entre l'architecture et la vie. Entre l'espace et ce que j'y ai vécu, même si je me concentre uniquement sur l'architecture et si j'essaie de comprendre ce que j'ai vu, ce qui a été vécu entre en résonance avec ce qui a été vu et lui donne une teinte particulière. Puis s'y mêlent des images d'expériences semblables. Les images de situations architecturales se superposent et se donnent mutuellement consistance.
On entend ici la voix d'Hélène Catin dans un enregistrement bien piètre que j'ai moi-même effectué un peu par hasard dans la Maison de la Suisse à Paris où le texte était dit bien piètre, mais peu importe puisqu'en fait on entend quand même la pensée de Zumstor qui dit voilà, il y a vraiment un lien, une correspondance, une résonance entre l'architecture et la vie. Est-ce que travailler ce texte-là a été l'occasion pour vous et Hélène Catin de vous souvenir de vos propres rapports avec des bâtiments habités, des appartements, des maisons, des endroits visités?
Oui, par exemple, le tout premier texte qui parle de la poignée de porte du portail qui donnait accès au jardin de sa tante. Ben, on pense forcément ou à la cuisine, à nos souvenirs d'enfance. Maintenant, je dirais que depuis qu'on a commencé à jouer le spectacle, les souvenirs sont beaucoup plus les lieux où, dans lesquels on va, en fait. On n'a pas du tout... On se préoccupe plus de nos propres souvenirs d'enfance. On rentre dans un nouveau lieu, dans un bâtiment dans lequel on va jouer le texte. Et puis, ce qui nous importe à ce moment-là, c'est nos sensations au moment de découvrir l'espace, et puis comment il est habité, à quoi il sert, et puis quelles sont peut-être les perspectives qu'on a envie de montrer. Il faut à chaque fois aussi se poser la question de savoir où on installe les spectateurs. Est-ce qu'on les déplace pendant le spectacle pour plusieurs scènes, pour leur donner des points de vue différents? Et on se rend compte qu'en fait, maintenant, à chaque fois qu'on quitte un lieu après avoir joué, on est très, très attaché. En fait, c'est vraiment un travail totalement dans le présent pour nous. Et c'est des très, très belles rencontres. Donc, ouais, pour répondre à votre question, effectivement, nos propres souvenirs d'enfance s'estompent un peu.
Au profit de souvenirs que vous fabriquez petit à petit en travaillant ce spectacle-là.
Ouais.
Combien de temps à l'avance vous atterrissez dans un endroit avant d'y lire et d'y mettre en scène ce spectacle?
En général, on fait une visite assez en amont. On est juste Hélène Catin et moi, avec du papier, un stylo, le texte. Et puis on passe quelques heures dans le bâtiment, discutant, essayant de trouver les premières idées ou installer certaines scènes. Et on rentre à la maison, on fait des photos aussi beaucoup pour après pouvoir travailler avec les photos à la maison. Et après, on essaye de le plus possible, en fait, prévoir ce qu'on peut prévoir, de la mise en scène, de distribuer les scènes dans le bâtiment, d'imaginer peut-être déjà certains éclairages. Et parfois, on peut faire une deuxième visite, ou même on amène déjà certains éclairages qui sont très légers, hein, qu'on amène nous-mêmes, par exemple le projecteur de diapositive, ben on le prend sous le bras et puis on teste sur place si la position où on pensait le mettre, si ça peut jouer ou pas. Et puis après, pour vraiment nous installer, on arrive en général l'avant-veille de la représentation. Là, à Paris, on est arrivé un peu sur les chapeaux de roue dimanche soir. On a posé tout le matériel à la Fondation Suisse. Et on a vraiment commencé à travailler lundi matin. Et ça fait, le jour avant la première, ça fait toujours une journée folle jusqu'au petit matin, en général, si on peut rester dans l'espace. Parce qu'on a tout à tester, à installer les sons, et puis surtout aussi tester les lumières, en fait, au moment même de la représentation, parce qu'on joue toujours dans des lieux qui sont éclairés par la lumière naturelle, qui ne sont pas comme une boîte de théâtre noire. Donc il faut vraiment tester chaque éclairage à l'heure du spectacle, à laquelle on va jouer le lendemain. Donc on se trouve souvent avec trop de choses à faire en même temps. Et puis il y a aussi une part d'improvisation. Et puis il faut jouer avec les contraintes aussi. Souvent, c'est des lieux où on ne peut pas rester toute la journée. Par exemple, si c'est une bibliothèque, à Lucerne, on a joué dans une bibliothèque l'année dernière, il fallait respecter les heures d'ouverture. On commençait à répéter quand la bibliothèque fermait. Et puis voilà. Mais ça, c'est ça aussi qui nous passionne dans ce travail. Il faut jouer avec ses contraintes, avec les contraintes de chaque lieu. À la Fondation Suisse, à Paris, c'est une maison d'étudiants, donc elle est habitée. On commence le spectacle dans un couloir où il y a 12 portes de chambres où les étudiants peuvent surgir à chaque moment. Bon, on leur dit qu'il y a un spectacle, mais on ne veut pas les empêcher de vivre leur vie dans leur maison.
Parce que ce serait trahir ce pourquoi est faite cette maison et donc l'identité de cette maison, que d'empêcher par exemple la libre circulation. Il se trouve que pendant le spectacle, il y a aussi des gens qui sont rentrés dans le bâtiment, ont monté les escaliers, nous ont regardé nous, qui étions installés en spectateurs dans le salon, par les vitres. Nous, on a pu sentir au cours du spectacle, j'imagine, des pâtes à la bolognaise se préparant dans la cuisine qui était au premier étage. Donc il y avait quelque chose de l'ordre d'un bâtiment qui restait ce qu'il était, malgré le fait qu'un spectacle était en train de se vivre et de se jouer en même temps.
Ça, pour nous, c'est essentiel. Sinon, ça n'aurait pas de sens, en fait, le projet qu'on a envie de faire. Il nous importe vraiment de montrer chaque bâtiment, chaque lieu dans sa propre vie. Et puis, les étudiants, là, en l'occurrence, on a parlé avec trois d'entre eux qui étaient d'accord de sortir leur chambre à un certain moment pour effectivement aller à la cuisine, commencer à faire à manger. Mais après, peu importe hein, si c'est prévu ou pas, parce qu'un jour, il y en avait cinq, un autre jour, il n'y en avait que deux. Et après, effectivement, des gens passent, rentrent, sortent. Et à partir du moment où ils font pas du bruit qui pourrait empêcher d'entendre le texte, ça, c'est vraiment voulu.
Zumthor parle de l'adéquation, voire de la façon dont peuvent se confondre ce qui a été vécu et ce qui est vu. Est-ce que vous vous concentrez uniquement sur votre vécu et votre ressenti des bâtiments dans lesquels vous installez votre spectacle? Ou est-ce que vous vous intéressez aussi, non seulement à l'histoire plus ou moins officielle de ces bâtiments, mais aussi à l'histoire sensible? Je pense par exemple à cette maison de la Suisse à Paris. Est-ce que vous avez été demandé à des étudiants de vous raconter ou de vous dire la façon dont ils vivent cette maison? Ou bien ça ne vous regardait pas?
Si, ça vient dans un deuxième temps. Et puis ça vient aussi depuis le début de manière un peu sous-jacente. À chaque fois, quand on découvre un nouveau lieu, on s'intéresse à son histoire, c'est sûr. Mais c'est pas un spectacle c'est pas un spectacle théorique sur une histoire d'un lieu. Mais c'est à chaque fois un peu différent, en fait. Chaque lieu est un cas unique. Mais on s'intéresse évidemment à savoir comment vivent les étudiants. Quand on était la deuxième fois à Paris pour préparer le spectacle, on a dormi dans la maison, dans des chambres d'étudiants.
Ça a changé le spectacle, vous pensez?
Non, avant, c'était une question surtout pratique, parce qu'on pouvait travailler jusqu'à 2h du matin sans devoir rentrer, sans devoir quitter le lieu. On s'est nous-mêmes retrouvés dans ces petites cuisines tard le soir, en train de boire un verre et puis manger un bout de fromage. Non, ça n'a pas foncièrement changé le spectacle, mais ça, on s'est imprégné de l'ambiance, ça c'est sûr.
Le texte, il est nourri, espacé, disons que vous le faites respirer par des moments qui ne sont pas de la diction de texte, mais qui sont d'autres choses, qui sont des choses que nous voyons en tant que spectateurs, qui sont chorégraphiés plus ou moins. Ça peut être des moments qui sont musicaux, ça peut être des moments où vous vous installez d'une certaine manière dans le lieu, des moments où l'on entend des sons. C'est quelle matière, ça, l'intertexte que vous mettez dans la pensée de Tsum Tor ? Ou entre les pensées de Tsum Tor ?
Bah, c'est aussi une manière de montrer la vie. En fait, j'ai l'impression que mon personnage, qui est un personnage muet, incarne la vie. Par exemple, vers la fin du spectacle, quand je passe avec la brosse à dents et puis pour aller me coucher avec une couette et tout ça, ça montre la vie. En même temps, on voulait vraiment éviter de réciter les textes qui sont à l'origine, ce sont des conférences que Peter Tsum Tor a données ces derniers 10 ans. Donc on ne voulait vraiment pas tomber dans la récitation de conférences. Donc c'était très important pour nous et de trouver des moments. On crée juste une ambiance, une atmosphère en fait aussi, comme lui crée avec ses espaces.
Je m'imagine volontiers concevoir des maisons dont je me retire une fois qu'elles sont achevées, pour laisser un ouvrage bâti qui existe pour lui-même, qui sert à habiter comme une partie du monde des choses, qui n'a pas besoin de ma rhétorique personnelle. Il existe pour moi un beau silence des bâtiments, que j'associe à des notions telles que le calme, l'évidence, la durée, la présence et l'intégrité, mais aussi la chaleur et la sensualité. Être soi-même, être un bâtiment. Non pas représenter quelque chose, mais être quelque chose. La réalité qui m'intéresse et sur laquelle je veux pouvoir concentrer mon imagination n'est pas celle des théories coupées des choses. C'est la réalité de la tâche concrète dont la finalité est cette habiter. C'est la réalité des matériaux de construction, la pierre, le bois, l'acier, le cuir. Et la réalité des constructions dont je me sers pour élever un bâtiment, dans les qualités duquel j'essaye de pénétrer par mon imagination, soucieux du sens autant que de la sensualité, afin d'allumer peut-être l'étincelle qui donnera vie à l'ouvrage réussi, et que des hommes pourront alors habiter.
Anna Euler, on entend ici la voix d'Hélène Catin, toujours dans un extrait de ce spectacle. Quand on entend les mots de Peter Tsum Tor qui dit être soucieux du sens autant que de la sensualité, être soi-même, être un bâtiment, parler de maisons dont on pourrait se retirer pour les laisser être habitées, assez rapidement se crée un parallèle théorique assez évident avec le théâtre. On pourrait remplacer le mot maison par le mot personnage ou le mot maison par le mot texte. Est-ce que c'est un parallèle qui vous est apparu très vite à la lecture du texte, à vous et à Hélène Catin ?
Oui, je pense que c'était aussi une des raisons pour laquelle Hélène Catin a tout de suite... elle ne connaissait pas le texte, moi je lui ai proposé, elle l'a lu et elle était très vite emballée, même si à ce moment-là on ne savait pas encore du tout quelle forme allait prendre le spectacle. Mais c'est vrai qu'il nous paraissait évident ce parallèle-là, que Tsum Tor il parle de la maison comme d'un personnage ou comme d'un corps sensible et puis que ça nous semblait évident pouvoir transmettre ça sur scène.
C'est aussi une pensée du calme, de la sérénité. C'est à vrai dire ce qui ressort vraiment de ce spectacle-là, c'est-à-dire qu'il parle, lui, de qualité d'un bâtiment comme bâtiment qui laisserait la possibilité d'habiter, qui laisserait la possibilité de penser. C'est ce que laisse votre spectacle. vous nous laissez la possibilité d'habiter, de s'asseoir de cette manière, de vivre et de beaucoup penser à l'intérieur même du spectacle. Est-ce que vous avez travaillé cette forme de calme ? Et de quelle manière ?
Je ne sais pas trop quoi répondre. C'est, on aime... On travaille beaucoup sur la manière dont on installe les spectateurs dans le lieu, parce qu'on a envie de leur faire découvrir effectivement l'espace dans lequel ils sont installés. Et après, le calme et la tranquillité, ça vient, je pense, du texte qui dégage ça. On n'avait pas envie de s'agiter pour faire les folles sur scène. Je pense que ça vient très naturellement de ces mots.
Quand il parle, par exemple, de ne pas avoir besoin de la rhétorique de l'architecte et qu'il ne faut pas produire un bâtiment qui dise trop, est-ce que ce sont des choses qui sont transposables pour le théâtre, dans la façon dont vous envisagez le théâtre, de produire un théâtre qui ne soit pas trop bavard sur lui-même ?
Le mot bavard me fait rire parce qu'il y a un des textes qui commence sur l'architecture contemporaine, certaines architectures contemporaines qui seraient trop bavardes.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai qu'il faut... On a envie de faire entendre ces textes sans les dénaturer, mais tout en sachant que c'est une femme qui parle des textes écrits par un homme. On voulait pas adapter. Mais c'est... Je sais pas trop quoi dire de plus. C'est vraiment une manière très naturelle d'aborder ces textes. On n'a pas une approche... On s'est pas demandé d'après quelle référence on allait mettre en scène ça. C'est vraiment venu à table... autour d'un verre de vin, avec du papier, un stylo, en passant des heures. D'abord, juste à lire le texte à haute voix. En fait, avant même d'avoir choisi les extraits, on a fait des lectures de tout le livre pour arriver à c'était une dizaine d'extraits choisis à la fin. Et ouais, c'est une manière très organique de travailler, je dirais.
Vous êtes habillée, alors vous ne changez pas beaucoup, Hélène Catin un peu plus de costume. Vous avez comme un costume de majordome. Pourquoi avoir choisi ça ?
Je crois que c'est né parce qu'à un moment où on a décidé d'interpréter un Lied de Schubert sur un tout petit piano, une sorte de glockenspiel qui a la forme d'un piano à queue mais qui est vraiment minuscule sur des jambes fines comme ça. Et là, on s'est dit, Hélène Catin, elle chante. Moi, je m'assieds sur un tout petit tabouret devant ce piano. Et là, on s'est dit, on a envie d'avoir des beaux costumes de concert. Et après, c'est vrai que ce costume avec le queue-de-pie, le nœud de papillon, ça va aussi bien avec la sorte de serviteur aussi que le personnage incarne. C'est vraiment aussi celui qui va parfois même allumer les lumières à vue, apporter des accessoires, ramener des accessoires, ouvrir les portes, faire passer les spectateurs d'un lieu à l'autre, toujours sans parler. On avait envie d'avoir des beaux costumes et puis ça allait bien avec ça.
Thank you.
Anna Euler, c'est le fameux lead de Schubert, mais on n'entend pas la voix de Hélène Catin. Pourquoi vous avez choisi ce morceau-là qui, moi, quand je l'écoute, me donne directement la vision du salon de la Maison de la Suisse dans lequel je l'ai entendu?
C'était une suggestion de Hélène Catin qui, aussi un peu comme moi avec le Mingus peut-être, avait ce morceau depuis longtemps avec elle et puis l'aime bien. Et l'idée, c'était de créer une atmosphère de nostalgie, d'exprimer cette sensation, mais qui pour nous n'était pas du tout liée à un espace en particulier en début. Alors c'est
drôle. Alors pourquoi la nostalgie? C'est précisément ce que ça crée. J'ai eu l'impression chez nous tous en plus dans les spectateurs.
Mais parce que les textes de Zumthor parlent de ça quand il cherche dans les anciens souvenirs pour quand il raconte comment il travaille, il essaie de se souvenir d'une certaine sensation, quelque chose qu'il a vécu dans l'espace, où il se demande en fait est-ce que c'était vraiment les qualités de l'espace ou plutôt ou aussi ce qu'il a vécu dans l'espace à ce moment-là, qui font qu'il lui reste un certain souvenir de quelque chose qu'il a envie de recréer peut-être dans son architecture, tout en sachant qu'on ne peut jamais recréer entièrement une telle sensation du passé.
Puisqu'il faudrait que se conjugue à nouveau à la fois le lieu et le vécu, et ça, c'est pas possible.
Exactement.
Est-ce que vous avez des lieux, des maisons dont vous rêveriez qu'elles accueillent votre spectacle? Puisqu'il est question, chez Zumthor, des maisons que l'on veut habiter.
Là, il n'y en a pas en particulier. En fait, on est en train de chercher des lieux pour continuer la tournée, ça c'est sûr, mais c'est toujours un travail qui se fait en parallèle aux représentations que nous sommes en train de faire. On a très envie de jouer à Bâle, par exemple, sans savoir encore précisément dans quel endroit, parce que c'est une ville d'architecture, c'est là où est né Zumthor, c'est une ville en Suisse qu'on aime bien, donc on se dit on a envie de jouer là, puis après on va à la recherche de lieux. Ou alors, il y a d'autres rencontres. Il y a par exemple le Salz Magazine de Stans, qui est un tout petit musée en Suisse centrale, à côté de Lucerne, que je ne connaissais pas du tout, mais dont j'ai découvert une image sur Internet par hasard. Et puis après, moi, je vais essayer de contacter les gens qui s'en occupent, voir si c'est possible. C'est vraiment à chaque fois des cas uniques.
À la fois... De la même façon que Zumthor parle d'un ressenti par rapport à un bâtiment, vous choisissez ou essayez de choisir des lieux qui vous parlent de cette manière-là, qui vous parlent de manière sensorielle ou sensitive?
Oui, je pense que c'est très intuitif comme choix. Mais aussi, certains choix sont faits par les hasards de la vie. Hein. Par exemple, le pavillon suisse, Le Corbusier à la Cité U, on ne le connaissait pas du tout. Il nous a été proposé par les directeurs du Centre culturel suisse qui nous ont invités à venir jouer à Paris. Et on a dit oui avant d'avoir visité le lieu.
C'est vrai? Pourquoi?
Mais parce qu'on avait envie d'accepter. Et puis finalement, ce spectacle, il peut se jouer. Ah, je pense qu'il y a plein de lieux où on dirait non si on nous les propose. Maintenant, je vais pas chercher des exemples par la négative, mais là, ça nous semblait évident. En fait, ce qu'il faut, c'est simplement Hélène Catin et moi, il y a une étincelle, il y a une envie qui naît d'une manière ou d'une autre, puis c'est tout à fait possible sans avoir visité le lieu. Après, il y avait les premières visites où on découvrait le bâtiment, on s'est dit, oulala,
Dans la villa de Le Corbusier.
Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Peut-être que il y a des moments où on s'est même dit, mais peut-être qu'on l'aurait pas choisi nous. Et puis après, c'est quand même aussi le plaisir de jouer avec les contraintes qu'on a et puis d'essayer d'en faire quelque chose. Et puis après, on se rend compte qu'en quittant un lieu où on a joué, en fait, c'est presque comme si ça avait été à chaque fois celui qu'on a le plus adoré, alors que on sait qu'il y a un suivant, et puis il y en a eu avant. Mais en créant spectacle dans un lieu, on s'attache énormément à ces lieux-là et aux personnes qui l'habitent. Dans ce cas-là, pas seulement les étudiants, mais les gens qui rendent possible en fait qu'on puisse installer le spectacle, la directrice de la fondation, le concierge, dans un musée, les techniciens, ceux qui s'occupent de fermer les portes, d'ouvrir les portes. C'est à chaque fois des très belles rencontres.
Ici, vous avez passé quelques courtes minutes avant d'entrer dans le studio dans une grande maison ronde qu'est la Maison de la Radio à Paris. Ce serait un bon endroit pour installer les pensées et les mots de Tsum Tor ?
Oh, on pourrait tout à fait l'imaginer, oui, c'est sûr.
Ça tourne ici, hein ?
Comment ça tourne ici ?
Ça tourne, c'est un bâtiment rond. C'était une maison ronde.
Il faudrait imaginer un parcours en vrille pour descendre ou pour monter.
Allez, rendez-vous est presque prêt. Pas seulement dans les couloirs. Non. Vous connaissez Beckett, le dramaturge, le romancier, le grand auteur de théâtre. Peut-être ne connaissez-vous pas Beckett, l'auteur de poèmes. Laurette Nobécourt nous propose cette semaine de nous plonger dans cette partie de son œuvre. Aujourd'hui, trois petits poèmes extraits d'un livre qui s'appelle Poèmes, paru aux éditions de Minuit. Ils nous sont lus par Laurent Natrella de la Comédie Française. On l'écoute.
Elles viennent, autres et pareilles. Avec chacune, c'est autre et c'est pareil. Avec chacune, l'absence d'amour est autre. Avec chacune, l'absence d'amour est pareil. Bois seul, bouffe, brûle, fornique, crève seul, comme devant. Les absents sont morts, les présents puent. Sors tes yeux, détourne-les sur les roseaux. Se taquinent-ils ? Ou les haïs, pas la peine, il y a le vent et l'état de veille. Ainsi, à tombeau, par le beau temps et par le mauvais, enfermé chez soi, enfermé chez eux, comme si c'était d'hier, se rappeler le mammouth, le dinotérium, les premiers baisers, les périodes glaciaires n'apportant rien de neuf, la grande chaleur du 13e de leur ère sur Lisbonne fumante, Kant froidement penché, rêver en génération de chêne et oublier son père, ses yeux, s'il portait la moustache, s'il était bon, de quoi il est mort. On n'en est pas moins mangé sans appétit, par le mauvais temps et par le pire, enfermé chez soi, enfermé chez eux. Thank you.
Anna Euler, je vous laisse désannoncer ce qu'on entend.
C'est un morceau qui s'appelle Goodbye Pork Pie de Mingus. L'interprétation que vous avez choisie, je ne sais pas laquelle c'est.
Non, on la mettra sur le site internet parce que ce n'est pas exactement celle que vous souhaitiez. Il manquait le solo de contrebasse qu'on entend, en revanche, dans le spectacle oui. Être un bâtiment. Alors si tout à l'heure vous nous disiez que c'est Hélène Catin qui a choisi le Schubert, c'est vous qui avez choisi de faire entendre dans le spectacle Mingus. Pour quelle raison ?
C'était un choix de dernière minute parce qu'on remplaçait un autre son d'archives radio qu'on a utilisé pour la création à Lausanne et dans un deuxième lieu à Lucerne qui parlait précisément du bâtiment dans lequel on joue et donc on ne voulait pas le réutiliser après coup dans un autre lieu. Et le matin même, je crois, de la représentation, je cherchais un morceau de musique et puis j'ai pensé à celui-là qui m'accompagne depuis longtemps parce que je l'aime beaucoup.
Donc voilà, c'était un peu de vous encore une fois dans ce spectacle « Être un bâtiment ». C'est une adaptation, une mise en scène, une lecture, votre propre lecture des textes de Peter Zumthor, cet architecte qui a obtenu, on l'a dit au tout début, le prix Prisca en 2009. On peut voir ce spectacle les 3 et 4 octobre en Suisse, dans la ville natale de Le Corbusier.
Ou à la Chaux-de-Fonds.
Et puis le 9, 10, 11, 12 octobre, là ce sera dans les anciennes halles aux locomotives à Lausanne. Et les prochaines dates sur le site internet de la compagnie, cieuntourdesuisse.ch. Merci beaucoup Anna Euler d'avoir fait un petit passage par ici. Pour écouter cette émission, eh bien, on se rend sur le site internet de franceculture.fr, on clique sur l'onglet podcast, on dit oui, je voudrais podcaster, s'il vous plaît, pas la peine de crier automatiquement. Et quand on est poli, normalement, ça fonctionne. Vous pouvez aussi dire autour de vous que quelques programmes et à côté sont lisibles sur Twitter, nous nous appelons @paslapeine2. J'ai dit tout à l'heure que Michanel mettait de la musique sur un autre réseau social et qu'elle attend des heures et des heures de morceaux en ligne. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages, nous les trouvons et nous y répondons. Aux manettes aujourd'hui, c'était Vincent Ronet. Merci à Cyril Baer, Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron, Céline Geoffroy des Fictions. L'émission a été réalisée par Anne-Laure Chanel. Si vous êtes fidèle au poste, sachez qu'on est fidèle au poste. À demain.